بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لسفان رحمهم الله ديز à propos de لو كنتم تعلمون si seulement vous saviez. Quand Nuh alayhi salam avait averti son peuple, il leur avait mis en garde contre un châtiment imminent qui allait venir de la part d'Allah azza wa jal s'il ne revenait pas sur le droit chemin. Nuh alayhi salam annonce, voilà la promesse d'Allah, voilà la mise en garde de votre Seigneur, voilà votre situation, le délai est très proche, si vous ne revenez pas vers Allah, vous ne demandez pas pardon, vous ne faites pas preuve de taqwa wa ati'un et d'obéissance, Allah enverra un châtiment qui a été qualifié de azabun alim, d'un châtiment douloureux. Et Nuh alayhi salam dit à son peuple, si seulement vous saviez. Les savants disent, avec cette phrase qui est le wahy min Allah, qui est la révélation d'Allah, nous avons cette approche et ce décalage plutôt entre une situation initiale de l'être humain qui est à la recherche des plaisirs immédiats, qui est à la recherche du bonheur, entre guillemets, selon notre conception du bonheur, et l'annonce divine. C'est-à-dire notre situation à nous, là, en 2019, c'est comme la situation de Nuh, du peuple de Nuh, alayhi salam, et de n'importe quelle personne qui et parfois dans un mauvais chemin, et qui a un ajal, et qui a donc une période qu'Allah a accordée, et qui doit revenir vers Allah au mieux, en faisant le maximum d'efforts, parce que si on savait, si eux savaient ce qui allait s'abattre sur eux, ils auraient écouté Nuh alayhi salam. Pareil, si nous savions ce qui nous réserve, ce qu'Allah nous a réservé, dans l'au-delà, la situation au moment de mourir, ce qui se passe sous la tombe, comment se déroulera la résurrection, comment est-ce que la remise délivrée sera un moment terrible, comment est-ce que la pesée des actions sera quelque chose de terrible, comment est-ce que le passage sur le sirat sera dramatique. Si on savait, on aurait revu nos choix immédiatement. On aurait changé notre mode de vie et on serait devenu de pieux serviteurs d'Allah. Mais l'être humain ne connaît pas le futur. Là où qui veut dire si, dans le sens de si seulement vous saviez ce que Nuh alayhi salam dit à son peuple, si seulement nous aussi on savait. Mais en fait, nous savons exactement ce qui va se passer. Combien de personnes sont décédées devant nous? Combien de fois on a assisté certainement au ihtidar, au sakaratul maut, à l'agonie d'une personne, un proche ou un ami qui a quitté ce monde devant nos yeux. Combien de maillettes avons-nous assisté? Combien de maillettes sur qui nous avons prié, nous avons accompagné au maqbara, au kabrastan, nous avons enterré et nous sommes revenus chez nous et nous avons vu que celui qu'on a enterré, lui n'est jamais revenu chez lui et que c'était terminé. On connaît, on sait ce qui va se passer. Nous avons une connaissance qui est superficielle. Il nous manque la connaissance avec quoi? Avec conviction, certitude, avec yaqin. Ce qui nous manque, c'est le yaqin, la conviction. sur tout ce qu'Allah Rabbul Izzah nous a enseigné, nous a révélé, pardon, et ce que notre prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné. Si seulement le mu'min, si seulement nous savions, et nous avions yaqin et conviction, et que nous arrivions à mettre tout ça en pratique, ben, personne ne commettrait plus volontairement le moindre péché. Parce que chaque mu'min qui sait les conséquences, qui connaît les conséquences réelles d'un mauvais choix, d'un péché, ben, il s'en éloigne. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui ne pourra jamais assumer le jour de Qiyama. Et on ne peut pas accomplir un péché en attendant, en espérant le pardon divin. Ça ne se fait pas. On avait parlé de ça la semaine dernière, il me semble, il y a deux semaines. Je ne peux pas anticiper un péché, prévoir un péché. Ici ou ailleurs, je ne sais plus. Je ne peux pas décider que demain samedi, je vais aller en boîte avec mes amis. Je vais faire telle chose. Et de toute façon, je vais jeûner là, mardi. Oui ou non ? 10 Muharram, quelles que soient les dates, lundi, mardi, mercredi, je vais jeûner. Donc, avec le jeûne de Muharram, une année de péché effacée. Donc, samedi, je vais en boîte, la'oudhu billah, et je jeûne lundi, mardi, et ce péché est effacé. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Jamais anticiper un péché, parce que on ne trompe pas notre Seigneur. On ne trompe pas Allah Azza wa Jal. Et le fait d'avoir conviction sur la clémence et le pardon de notre Seigneur ne doit pas cautionner nos penchants vers le haram. Au contraire, c'est une bénédiction et nous ne devons pas le prendre à notre avantage pour assouvir nos besoins. Enfin là, c'était une parenthèse dans la parenthèse. Ce qu'on voulait dire, c'est que comme Noé alayhi salam, avait averti son peuple, mais le peuple a-t-il écouté Noé alayhi salam? Malheureusement, non pour eux. Et je dis malheureusement, mais le terme, si on remonte à l'étymologie de malheureusement, il est mal utilisé. Allah a décidé qu'il n'écoute pas Nuh alayhi salam, à part quelques personnes parmi son peuple. Et nous, quand nous sommes face à une situation de péché, ou quand nous vivons au quotidien un péché, et que nous ne sommes pas prêts pour faire le moindre effort pour changer notre vie, pour commencer à prier 5 fois par jour à la mosquée, pour baisser notre regard, pour faire attention à notre risque, notre nourriture, est-ce qu'il provient d'une subsistance licite ou non, et ainsi de suite, brasser tout ce qu'il peut y avoir comme péché dans notre vie, si on n'est pas prêt à faire ce choix, à revenir vers Allah, ben nous devons prendre comme exemple le peuple de Nuh alayhi salam, qui eux n'ont pas voulu écouter leur prophète. Ne soyons pas comme ces gens qui ne veulent pas, parce que si nous restons dans le péché, ça veut dire que nous ne voulons pas écouter Allah et son prophète. Est-ce que c'est logique ce que je dis là? Si je reste délibérément, volontairement dans le péché, je ne parle pas des péchés qu'on accomplit par inadvertance ou par dérapage spirituel, on va dire, c'est un nouveau terme, une petite erreur de parcours et un petit péché, enfin un péché qui est, voilà, qui a passé les filtres, Allah est pardonneur, Allah est Ghafur Rahim, il est pardonneur. Je veux dire que si je persiste, je reste dans ce péché. Je donne un exemple, je travaille, j'ai un commerce et dans ma façon de travailler, j'utilise l'intérêt, riba. J'ai écouté, j'ai entendu les discours, on m'a mis en garde, mais je persiste dans cette façon de travailler. Déjà, je ne veux pas rentrer dans trop de parenthèses, mais celui qui persiste dans le riba a déclaré la guerre à Allah et son prophète. Allah nous protège de ce genre de péché. Après, on peut parler de l'adultère, de n'importe quel péché. Imaginez que je suis en concubinage. Je vis en concubinage avec une dame, une demoiselle, et que je sais, je connais pertinemment que ce péché est haram, tout comme l'intérêt est haram ou n'importe quel autre. Ou alors, un autre exemple qui est, j'allais presque dire moins dramatique. Non, moins dramatique à nos yeux. J'ai rompu les liens avec mon papa et ma maman. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. J'ai décidé de tourner le dos à mes parents parce que ils me prennent la tête. Parce que voilà, quelles que soient les raisons. Quelle que soit la raison, tu as toujours tort. Quelle que soit la raison, tu as toujours tort. Parce que la pire des choses que tes parents peuvent faire, c'est quoi? Ash-shirku billah. Et même s'ils sont dans le shirk, tu dois être proche d'eux. Sans qu'ils voient une quelconque distance. À part, bien sûr, dans les péchés, tu ne les suis pas. Mais mis à part, est-ce qu'il y a pire que le shirk? Non. Même s'ils ils ont 1001 défauts, peu importe. J'ai décidé de tourner le dos à mes parents. Ou je décide de persister dans le concubinage, de le zina. Ou je décide de continuer à travailler avec l'intérêt. si je ne me décide pas d'arrêter ces péchés, ça veut dire que j'ai décidé de désobéir à Allah et son prophète. Parce que toutes les révélations d'Allah et les paroles du prophète sallam vont à l'encontre de ce que je fais. Et si je persiste, c'est que je l'ai désobéi volontairement. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est exactement comme l'exemple aberrant que j'ai cité tout à l'heure. Je décide d'aller en boîte demain et je nais mardi pour avoir l'expiation de mes fautes. C'est-à-dire qu'on anticipe le péché pour ensuite prévoir le taouba. Ça ne se fait pas. Mais pareil, si je reste de mon péché et j'attends qu'Allah me pardonne, ça ne marche pas. C'est-à-dire que chaque moumine doit prendre son destin en main. Le taqdir, c'est le taqdir d'Allah. C'est le qada ou le qadr, ce qu'Allah a prédestiné. Et ça, je pense qu'on avait bien expliqué, on a essayé d'expliquer au mieux la semaine dernière, même si on n'a pas fait de tafsir, mais on a parlé du destin. Et Allah Azza wa Jal a prédestiné chaque étape, chaque situation de la vie de chaque croyant. Mais Allah accorde à l'être humain le libre arbitre, la capacité de décider. Tu prends le chemin de droite ou le chemin de gauche. Et ton choix final est connu d'Allah. Et là où on décroche, en termes de cohérence logique, de compréhension, ça concerne le ilm d'Allah et le temps. La notion de temps pour Allah, c'est pas notre notion de temps. Le temps, ça appartient à Allah. Et le ilm, subhanallah, Allah connaît le passé, le présent, le futur, et même le futur conditionnel qui ne va pas se produire. يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ, comme le disent les ulama de l'aqida. Et donc, Allah sait exactement le choix qu'on allait faire, tout en nous laissant ce choix. Donc, à nous de prendre comme exemple, ou contre-exemple plutôt, la décision malheureuse du peuple de Nuh alayhi salam, et de ne pas répéter la même erreur quand on est face à un péché, et que nous savons pertinemment quel est le cadre, le hududullah, le cadre qu'Allah a fixé. Nous revenons vers le tafsir, le véritable tafsir. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi, nous avons envoyé Nuh vers son peuple, averti ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Tout ce qui est du destin, on avait parlé la dernière fois. Ila qawmihi, nous avons envoyé Noé vers son peuple, qawm. Dans d'autres versets, quand on parle des autres prophéties, on parle du mot akh. Wa ila adin akhahum huda, wa ila thamuda akhahum saliha, wa ila madyana akhahum shu'ab, akhahum. Ça souligne la proximité qu'il y a entre le prophète et, on appelle ça le da'ya et le mad'ou, les termes plus techniques, entre le prophète et la ummat ad-da'wa, les personnes vers qui Allah envoie cette personne. Allah n'a jamais envoyé vers un peuple un étranger, quelqu'un qui vient d'une autre localité, d'un autre village, d'ailleurs. Pourquoi? En commentaire, les mufassirin disent pourquoi akhahum et ainsi de suite. Parce que le peuple qui a vu grandir cette personne a vu chez lui des qualités morales et une spiritualité avant même qu'il ne devienne prophète. Et quand il devient prophète, ils savent que cet homme-là, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui a toujours été protégé par Allah. C'est pas quelqu'un qui était dans le péché et qui tout d'un coup vient prêcher. C'est-à-dire qu'il y a déjà une relation de confiance entre le peuple et cette personne. C'est pour ça que les savants disent que la meilleure da'wah, c'est celle qu'on fait à nos proches. C'est celle qui vient de la personne de la localité. Ce qui veut dire maintenant, c'est là, c'est l'autre volet, on va dire, le couteau à double tranchant. L'autre côté, c'est que la personne qui invite vers Allah doit avoir une éthique irréprochable. La personne qui invite vers Allah, jamais cette personne ne doit vivre des situations de péché. Autrement, il se discrédite totalement aux yeux des personnes qu'il prêche, qu'il invite vers le haq, vers la vérité. Et les seuls anbiya, alayhimus salat wa salam, qui avaient commis, je dirais pas un péché, mais c'était, on va dire, une épreuve, une situation d'épreuve où ils ont fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils auraient dû faire, ben, c'est souligné dans le Coran pour qu'on réalise que quand il y a une action qui sort du cadre, ben, on sait immédiatement. C'est quand Ibrahim a.s. par exemple avait menti à son peuple. Vous connaissez, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais que le peuple allait vers une fête, un Eid, et lui a dit que non, je suis malade. Inni saqim. Il a dit que je suis malade. Et là, il a profité que son peuple s'éloigne donc de la ville. Il s'était parti ailleurs pour. Il a fait quoi? Pour casser les idoles. D'accord? Et quand Moussa alayhi salam avait séparé l'israélite et l'autre personne de son peuple qui. Le pharaonite et l'israélite qui se querellaient, il l'avait. Fawakazahu Moussa. Il avait giflé et Moussa alayhi salam avait une telle force que la personne est morte, décédée immédiatement. Et Yunus alayhi salam avait maudit son peuple. D'accord? Et dans les hadiths concernant l'au-delà, là on sort du cadre du tafsir, mais on reste garder le fil conducteur. Dans l'au-delà, lorsqu'il y a le hadith de Al-Shafa'a, le premier Shafa'a, il y a plusieurs types de Shafa'a. Là on parle de Shafa'a qui a l'intercession. On parle de la première intercession, c'est lorsque les gens demanderont au pluriel, au prophète, d'intercéder auprès d'Allah. Vous me dites, oui, mais est-ce que tout le monde va croire au prophète? Ben oui, le jour de Qiyamah, tout le monde va les voir. Donc ils vont demander aux Anbiya, les gens, même ceux qui ne croyaient pas, qui ne croyaient en rien, le jour de Qiyamah, vont voir Muhammad, Ibrahim, Nuh, Isa, Ishaq, Ismaïl, subhanallah. Ils vont voir qui sont les élus d'Allah, qui sont les Anbiya, qui sont ceux qui sont élevés. Ils vont demander à ces Anbiya d'intercéder auprès d'Allah pour que quoi? Pour que les comptes commencent. Pas pour entrer au paradis. On n'en est pas là. Pour que le hissab commence. Parce qu'ils auront déjà attendu dans cette annulation, on parle de combien d'années? De 40 ans. 40 années sous le soleil de la terre de Mahshar, sans qu'Allah ne leur adresse la parole, sans que rien ne se produise. Attente. Sabr. Et les gens n'en pourront plus. Et certains demanderont même, oh Allah, envoie-nous dans le Jahannam tout de suite. Plutôt que de rester dans une situation qui est insupportable. Tellement insupportable, et le comble c'est quoi? C'est qu'on ne peut même pas mourir de cette situation. On ne peut même pas mourir, c'est ça le plus dramatique. Encore si la mort existait, les personnes auraient pu souhaiter cette mort pour en finir, pour ne plus souffrir. Mais il n'y a pas de mort en ce jour. Et donc, ils iront voir les prophètes, et dans le hadith de ce hadith concernant ce Shafa'a, il est mentionné que chaque prophète va se rappeler de l'erreur, l'unique erreur qu'ils ont pu commettre dans ce monde, veut dire que non, je ne peux pas aller demander ça à Allah parce que dans ce monde, j'ai fait telle chose. Dans ce monde, j'ai fait telle chose. Et le seul prophète qui ne mentionnera aucun péché, c'est qui? C'est qui? Non. Isa alayhi salam. Jésus. Le seul qui ne mentionnera aucun péché, c'est Isa. Mais il dira aux gens d'aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ira voir Allah, se prosternera devant son trône, il va l'invoquer par des noms, des attributs qu'Allah lui révélera en ce jour, que personne ne connaît. Et Allah Rabbul Izza dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever. Sal, tu'ata, shfa', tushaffa', demande, et il te sera accordé. Intercède, et ton intercession sera acceptée. Et là, le prophète sallallahu demandera à Allah de commencer le hisab. Et là, cette étape, l'étape suivante va commencer. Ce qu'on retient, même si on s'est un petit peu perdu dans les détails du hadith qui est magnifique, ce qu'on retient, c'est que quand un prophète a commis quelque chose, il ne l'oublie pas. Et il le mentionnera jusqu'au jour du Qiyama. Et ça, ce qu'ils ont fait, il y avait une hikmah d'Allah derrière ça. Quand Ibrahim A.S. l'a fait, Allah a décidé qu'il le fasse pour qu'il y ait autre chose qui puisse s'enclencher. Casser les idoles, faire réfléchir et ainsi de suite. Pareil pour Moussa A.S., ce qui a provoqué la fougue de Pharaon qui a envoyé les gens à sa recherche. L'histoire des Anbiya est connue. Et Yunus A.S., c'est pour qu'il aille en mer et qu'il se fasse avaler par la baleine et la suite de l'histoire. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le da'iya, celui qui invite vers Allah, doit avoir une tenue irréprochable. Je voulais dire une conduite irréprochable. Et incarner au mieux le modèle prophétique. Qu'Allah nous donne à tous la possibilité de le faire. Et justement, si on revient à notre ummah à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh n'ont jamais pu faire la moindre reproche directe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais Abu Talib, Abu Jahal, je voulais dire, jamais Abu Jahal, Abu Lahab, ou peu importe les ennemis de prophète sallam, jamais ils n'ont pu dire « Oh Mohammed, n'oublie pas que dans ta jeunesse tu as fait ça et tu viens prêcher alors que abadan » parce que jusqu'à ce qu'ils disent « Anan Nabi » son surnom c'était « Al-Amin » entre autres « Al-Amin » l'homme de confiance, le véridique, celui qui ne mentait jamais, celui qui était un exemple pour toute la population de Mecca. Ça veut dire que Allah a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son enfance. Et si on remonte à la sirat, on connaît, je citerai un seul exemple, l'exemple du mariage. Tout le monde le sait. Si vous avez lu Ibn Hisham ou d'autres sirat, où quand les enfants étaient petits, le prophète était petit, il jouait avec les enfants, il y avait un mariage. Et les enfants disent au Mohammed, allons, on va les manger. Comment il dit ça en créole? Ça se dit comment ça? Quand on n'est pas invité à un mariage, on y va quand même. Allez caler. En Mauricien aussi, il doit dire caler, non? Allez caler. En français, je ne sais pas. Hein. On n'est pas invité et on se faufile et on rentre juste pour aller manger. Et c'était une habitude chez les enfants. C'est des enfants, d'accord? Et le professeur Sam a dit non, je n'y vais pas. Alors qu'il était ma'soum, il était enfant. Quand on dit enfant, c'est innocent, enfant. Et ses amis ont voulu l'amener deux fois. Ils ont dit non, tu viendras avec nous, viens. Ils ont essayé de le tirer et Allah a décidé qu'il s'évanouisse. Il s'est mis à dormir. Direct. Et ses amis ont essayé de le prendre pour l'amener avec lui, avec eux. Tellement ils voulaient qu'il vienne. Son corps est devenu tellement lourd, un enfant, qu'ils n'ont pas pu le déplacer. Mahfoud, protection d'Allah. Allah l'a protégé. Et les ulama de Sirat, là on passe à la Sirat, disent que ça c'est un exemple de protection d'Allah pour le Izza, l'honneur du prophète, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à ce qu'il devienne prophète. Et n'en parlons plus, quand il est devenu prophète, ce n'était plus un modèle pour Mecca, mais un modèle pour Allahu Akbar, pour l'humanité, subhanallah, et rahmatan lil alamin. Voyez comment est-ce qu'Allah a protégé le Izza et le Jah de nos prophètes, alayhi salatu wa salam. C'est une leçon pour nous. Quand Allah envoie une personne, Allah lui donne les meilleures des qualités. Et nous, si nous voulons faire le khidmat du din, nous devons essayer de faire vivre au maximum, parce que nous n'avons pas autant de qualités, mais on se doit d'être le plus droit possible et de ne pas nous laisser aller vers les déviances. Inna arsalna nuhan ila qawmihi, et on a expliqué qawmihi. An anzir qawmak min qabli an ya'tiyahum azabun alim, avertis ton peuple et avertir, c'est la da'wa, mettre en garde, avant que leur vienne un châtiment douloureux. Azabun alim. Les mufassirines disent également, nous avons là une description du châtiment qui est annoncé par Allah, qui est un châtiment douloureux. Et je ne veux pas dire paradoxalement, mais je le dis, nous voyons énormément de versets qui rappellent la clémence, la bonté, le pardon de notre Seigneur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Nombre de versets qui rappellent qu'Allah est pardonneur miséricordieux. Et là, nous avons annonce de châtiment douloureux. Et c'est là que nous devons nous situer, Ahl Sunna wal Jama'a, le juste milieu. Être conscient qu'Allah est Ghafur Ar-Rahim, Rahman Ar-Rahim, Wadud. Allah est amour, Allah de la pitié, de la compassion, de la miséricorde et des pardonneurs. Mais si on sort du cadre et on ne revient pas, quand Allah décide de châtier, qu'Allah nous protège, son châtiment est douloureux. Donc, faire attention. Je ne vais pas rentrer dans trop de masail, de aqida, entre ce qu'on appelle al-irja et d'autres, je ne vais pas citer, d'autres branches qui sont parties plus vers le takfir, et après ils sont vers le khawarij, et ainsi de suite, et ça cause beaucoup de problèmes. Et nous avons des versets, parmi les versets qu'on retient, on a ce juste milieu, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit, il me semble que c'est le 14e juz, Nabbi ibadi, Hudhayfa akmil, Nabbi ibadi anni, anal ghafur rahim. Sens approximatif du verset, annonce à mes serviteurs que je suis le pardonneur très clément. Ana al-Ghafur al-Rahim. Mais également, wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul 'alim. Mais que mon châtiment est également douloureux. Pour qu'on sache qu'Allah est clément, mais si on n'est pas resté dans le cadre de le hududullah, qu'on doit faire attention. Le châtiment d'Allah est douloureux. C'est pour que le mu'min ne sombre pas, comme on a dit, vers une déviance, avec un excès de confiance. Là, ce n'est pas de confiance, mais c'est tout l'amal, un espoir infondé en Allah, en se disant, je ne prie pas, je ne fais rien du tout, mais Allah pardonne. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Là-dedans, les propres. Comme il dit en créole, là-dedans, les propres. Moi, je ne me fais pas des ordres, moi. Moi, je n'ennuie pas personne, moi. Mais, ma tusalli, la tasoum, la tusalli, la taqra al-Qur'an, wala shay. Après, tu te dis, Allah est ghafour al-Rahim, ma yemchi ya akhi. Ou tu restes dans le haram, le zina, le riba, ainsi de suite. Il dit, oui, mais zina, c'est de l'amour. Riba, c'est de l'argent. Je ne tue pas. Je ne verse pas le sang. Je ne fais pas de médisance ni de calomnie. Et j'aime mon papa et ma maman. Je suis à leur chevet tous les jours. Shaitan te trompe. Ya akhi. Shaitan te trompe. Il y a des fois où on excelle dans une bonne action et Shaitan nous fait croire Talbis et Iblis. Shaitan nous fait croire que ben, cette bonne action-là, là, ça c'est ta couverture pour le reste de ta vie. Ça ne se passe pas comme ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il vient à la mosquée, il dit, ah, il y a des travaux. Je signe un gros chèque de 10 000 euros. Allahu Akbar. Grosse somme, gros sacrifice. Et il se dit intérieurement que ben, c'est bon, j'ai donné, maintenant ça, avec ça je peux me permettre certains écarts. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as fait un chèque de 10 000 euros pour la madrasa ou pour la masjid. Si quelqu'un achète 10 000 euros, je prends, hein, on a des travaux chez nous. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un chèque de 10 000 euros que ça vous permet de continuer à travailler de façon illicite ou et ainsi de suite. Comprenez? Le din, c'est un tout, c'est istislam lillah, une soumission totale à Allah. Tu te soumets du lundi matin au dimanche. Du lundi matin au lundi matin. Déjà dimanche soir. Non, ça ne veut pas dire que après c'est libre. Non. Yani, 24 sa'a, H24. Tu es sous le contrôle, sous le regard d'Allah et de la soumission à Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas de bonne action qui cache, qui couvre les péchés. Aucunement. Aucunement. Tout comme une personne peut se dire, peut être trompée par le diable, il dit que moi je suis très proche de mes parents. Le soir je vois ma maman, mon papa, j'embrasse le pied, je fais cuire à manger, je suis avec eux. Et ma maman, elle est, je donne un cas de figure, elle est vieille et je l'aide pour sa toilette, pour se changer. Ni'am al-walad. Ça c'est énorme comme bonne action. Mais en même temps je vis en concubinage. Ça c'est bien. Ça te rapproche d'Allah, mais ça, c'est mauvais. Ça t'éloigne d'Allah. Et ça ne te couvre pas, là. L'obéissance envers tes parents ne couvre pas d'autres péchés. Ne couvre pas tes autres péchés. Ça veut dire que le mu'min doit analyser sa vie et se conformer à la volonté d'Allah. Qu'Allah, le très clément, le très miséricordieux, ouvre nos poitrines. Rabbi shahli sadri. Qu'Allah ouvre nos poitrines et nous guide ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous guide vers le droit chemin. Chacun connaît ses manquements. Chacun connaît son passif. Chacun sait ce qu'il a accompli, mais personne n'a le droit de juger son prochain. Parce que le jour de Qiyamah, c'est Allah qui juge. C'est pas Anwar, Ibrahim, Ishaq, Hudhayfa qui juge. Donc, si là-haut, personne ne juge, ici, personne n'a son mot à dire. D'accord? Chacun a son dossier. Notre dossier, c'est avec nos anges, et qui sont remis à Allah, et le jour de Qiyamah, le dossier est remis à qui? À moi. Chacun reçoit son dossier. Verset Hudhayfa? Et Qara. Je voulais juste un petit peu avant, dans le surat Banu Israël, le verset avant, ça ne me revient pas, où chacun recevra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Après, wa nukhriju, akhraju yukhriju, c'est faire sortir. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaba yalqahu manshura. Chacun recevra son livre qui sera ouvert. Et Allah dira, Iqra kitabak. Yani, anta, Iqra kitabak. Anta, Iqra kitabak. Anta, Iqra kitabak. Chacun lira son propre livre. Et chacun sera, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Chacun sera son propre juge. Chacun va voir, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai pas demandé pardon. C'est vrai, j'ai fait, et ainsi de suite. Mais quand ce jour, qu'Allah ait pitié de nous, et que nos livrets de péché soient vides le jour de Qiyamah, et que nos livrets de bonnes actions soient remplis. et que de ce monde, Allah guide nos cœurs, guide nos pas, guide nos yeux, guide nos mains, nous guide vers ce qu'il y a de mieux et nous compte parmi les personnes qu'il aime. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.